40 jours de grève, un gouvernement d'un côté qui ne veut pas s'arrêter, et puis d'un autre côté, eh bien, peut-être des syndicats, des travailleurs, une intersyndicale qui ne veut pas non plus s'arrêter. Autour de la table, il y a Josette Allard, qui est de l'Union locale CGT Aubenas. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Daniel Tessier de la CNT. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Couden pour FO Enseignement, si je me trompe, vous me le dites. Hein. Bonjour.
Non, c'est ça, bonjour.
Et Ouria Del Bosque pour la FSU. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tous les quatre, vous venez au nom de l'intersyndicale. L'intersyndicale, d'ailleurs, Ardèche, Drôme Ardèche, Sud Ardèche, comment on l'a défini?
C'est l'intersyndicale du bassin d'Aubenas.
Bassin d'Aubenas, d'accord. Vous venez pour nous parler de ce dossier qui agite la France, alors on va dire depuis 40 jours, mais il avait déjà commencé à agiter la France bien avant, mais voilà, depuis 40 jours, on est dans le dur, on va dire. On est entré dans la mobilisation, on est entré dans les mouvements de grève, c'est quelque chose d'assez historique d'ailleurs, 40 jours de grève ininterrompue en France. Ce qui veut dire que c'est un dossier quand même qui est plus que chaud et qui a connu un petit rebondissement samedi, on y viendra dans un second temps. Ce que j'aimerais peut-être vous entendre dire, c'est qu'est-ce qui vous choque, peut-être le rappeler encore, qu'est-ce qui vous choque, qu'est-ce qui vous interpelle dans le dossier de cette réforme voulue par le gouvernement. Peut-être Josette Allard pour la CGT Union Locale.
Eh bien, ce qui est le plus choquant, c'est qu'effectivement, le gouvernement parle d'âge d'équilibre, d'âge pivot, de salaire, de retraite minimum, mais nulle part il n'est fait mention, il n'est expliqué la capitalisation, qui est en fait le principal, je dirais, levier de cette réforme pour le gouvernement. Vraisemblablement, le gouvernement veut mettre la main sur les fonds de pension existants et les réserves que cela représente pour pouvoir placer en banque et dans la capitalisation ces fonds. C'est tout à fait bien exprimé par la récente manifestation des avocats qui, n'ont rien à perdre ni à gagner d'ailleurs dans ce projet de retraite, puisque eux, leur retraite s'équilibre, est bénéficiaire, leurs fonds de pension sont bénéficiaires, et ils n'ont pas du tout envie de donner cet argent à l'État. Donc en fait, l'État ne parle pas de ça. L'État parle, ça va être l'occasion d'avoir des retraites, un minimum retraite pour tout le monde à 1000 euros, alors que en fait, ça, ce sont déjà des mesures qui existent depuis la loi Fillon de 2003, et qu'on s'aperçoit que les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas 1000 euros, justement, et que le projet de loi va continuer également dans ce sens, puisque dans le projet de loi tel qu'il est, pour pouvoir bénéficier de ce fameux seuil de 1000 euros, il faudra avoir réalisé une carrière complète de 43 annuités, avec sans arrêt maladie, sans accident de travail, sans période de chômage. Alors, et il faut bien aussi relever que les 1000 euros, ça reste en dessous du seuil de pauvreté actuel.
On ne parle plus d'annuités d'ailleurs, on parle de points, c'est ça?
De points, ouais. Effectivement.
Et donc plus trimestre.
Et ce régime est, comment dirais-je,
Daniel Tessier, pour la CNT.
Oui, c'est le flou le plus complet pour les futurs retraités. C'est-à-dire qu'on connaîtra la valeur du point d'achat, mais on ne connaîtra pas le montant de la pension. Alors qu'aujourd'hui, avec le système par annuité, on pouvait prévoir à l'avance, on pouvait calculer le montant de sa pension beaucoup plus facilement que ce qui sera avec le nouveau projet. D'ailleurs, le gouvernement est dans l'incapacité de mettre en place un simulateur pour que les futurs retraités puissent calculer le montant de leur pension. En plus, vouloir calculer les pensions sur l'ensemble de la carrière au lieu des 25 meilleures années aujourd'hui pour le régime général, ça entraînera fatalement une baisse générale des pensions, puisque avec le système des 25 meilleures années, et nous d'ailleurs on se bat pour revenir aux 10 meilleures années comme c'était le cas avant, ça permet d'effacer les périodes de précarité, les périodes de chômage, etc. Alors que maintenant, même s'il affirme qu'une heure de travail sera comptabilisée aujourd'hui, une heure de travail sera comptabilisée, oui, mais si vous travaillez qu'une heure dans le trimestre, vous aurez qu'une heure. Alors aujourd'hui, lorsque vous travaillez un mois dans un trimestre, votre trimestre est validé. Donc ça sera une baisse généralisée des pensions. Les plus touchés seront certainement les fonctionnaires et les fonctionnaires de l'éducation nationale, ils en parleront, parce que avec le système d'étaler sur la carrière, il y aura des baisses de plusieurs centaines d'euros pour eux, mais les travailleurs du régime général, les travailleurs du privé seront également touchés. Il ne faut pas croire que eux, leur pension va s'améliorer, bien au contraire. Alors, soi-disant, c'est sous couvert d'universalité et puis d'équité. Alors, s'il y a un terme dont j'ai horreur, c'est bien le terme d'équité. Moi, je suis pour l'égalité. Alors, battons-nous pour que le régime général s'aligne sur les meilleurs systèmes de retraite. Moi, je conçois l'égalité comme ça. C'est pas parce qu'on va enlever quelques centaines d'euros à certains dits privilégiés que la situation des plus pauvres va s'améliorer. Bien au contraire.
Est-ce qu'il faut, vous avez d'autres...
Oui, je partage l'analyse de mes collègues. Disons que, pour Force ouvrière, nous demandons le retrait de cette réforme depuis le début, tout simplement parce que nous considérons que c'est un véritable chantier de démolition de l'ensemble de l'édifice en matière de protection sociale et de retraite sur la question des retraites. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est-à-dire que l'ensemble des régimes disparaissent, à commencer par le régime général. Aujourd'hui, un salarié peut, lorsqu'il approche, il est à quelques années de sa retraite, peut avoir une vision très précise de quel sera le montant de sa pension. Avec le système que messieurs Macron et Philippe veulent mettre en place, il est absolument impossible de savoir pour un salarié qu'est-ce qu'il en sera. Tout simplement parce que la valeur du point, elle sera fixée en fonction d'impératifs de ce qu'ils appellent la règle d'or. Alors la règle d'or, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura une enveloppe budgétaire fermée et en fonction de la conjoncture économique, on fixera la valeur du point puisque, je dirais, d'ailleurs, c'est un peu le problème auquel sont confrontés les hôpitaux aujourd'hui. Vous savez que plusieurs centaines de chefs de service ont décidé de démissionner de leur responsabilité.
Ils sont même à milliers, oui. Je crois, hein, d'ailleurs.
Eh bien ça, je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient du plan Juppé qui, sur l'aspect sécurité sociale, est passé. Qu'est-ce qu'on a dit à l'époque ? On a dit, maintenant, désormais, l'hôpital, il aura une enveloppe fermée. Donc, chaque année, l'enveloppe est un peu plus petite et on dit au personnel soignant, débrouillez-vous. Eh bien, ce modèle qu'on a mis en place sur l'hôpital, on va mettre en place exactement le même modèle sur les retraites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis à titre indicatif une valeur du point d'achat et une valeur du point de service. Mais personne ne se peut dire quelle sera la valeur du point dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Alors, quand on voit le gouvernement qui parle de projection sur 2037-2050, c'est absurde, tout simplement. Donc, il faut faire très, très attention, d'ailleurs, avec ces simulations. Mais même quand on prend les chiffres du rapport Delevoye, on constate que, par exemple, pour les enseignants, ce sont des pertes de entre 500 et 900 euros sur la future pension. Donc c'est pour cette raison que les enseignants, aux côtés de l'ensemble des salariés, sont en grève reconductible.
Rouya Delbosque, est-ce que la FSU, vous avez aussi d'autres... Est-ce que vous rejoignez déjà toutes ces idées ? Est-ce que vous avez d'autres...
Clairement, oui. À la FSU, on rejoint effectivement ces idées. On est tout à fait sur cette même ligne, c'est-à-dire de retrait du projet. Pour nous, ce qui a été choquant ces derniers temps, quand même, dans les médias nationaux général, c'est qu'on a mis l'accent sur cet âge pivot, comme si le 5 décembre, on s'était mis dans la rue et on avait manifesté contre l'âge pivot. Il était absolument pas question de ça. C'est vraiment le projet dans son ensemble qu'on rejette en bloc. Pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées, c'est-à-dire une individualisation, La favorisation de la capitalisation. Moi, je voudrais aussi insister sur les conséquences sur le, non seulement sur les fonctionnaires, mais également sur les femmes. Voilà, moi, je suis enseignante dans le premier degré. C'est un métier qui est très féminisé, et elles seront vraiment fortement impactées par ce genre de, par cette réforme, quoi, par ce projet. Ne serait-ce que parce que on veut prendre donc l'ensemble de la carrière, et on sait que voilà, la société fait que c'est souvent quand même les femmes qui s'arrêtent pour les temps partiels, pour les congés parentaux, et tout ça, ce sera pris en compte. Donc forcément, ça va impacter très très fortement. Donc voilà, nous on rappelle, et je pense que voilà, on est tous sur cette même ligne, le 5 décembre, quand on a fait un appel à la grève, c'était pour le retrait du projet. L'âge pivot, c'est un paramètre qui n'a rien à voir... avec le débat, pour nous en tout cas, quoi.
Actuellement. Justement, cet âge pivot, c'est un peu là-dessus que vous disiez que se focalisent actuellement les médias, sans compter aussi la focalisation sur le fait que tout va bien à la SNCF et à la RATP. Donc tout semble... On a l'impression qu'on est rentré dans une guerre de communication, là, actuellement. Cette semaine paraît être une... Pour moi, ça me semble être une semaine très... importante, qui pourrait faire basculer les choses dans l'opinion publique, parce qu'on est un peu dans une guerre de communication pour faire basculer l'opinion publique. Est-ce que vous êtes...
Oui, en fait, disons qu'on change de vocabulaire, hein, mais le fond reste, hein, parce qu'on ne parle plus d'âge pivot, mais on parle d'âge d'équilibre. Hein, donc, un âge d'équilibre qui serait variable. D'ailleurs, c'est dans le rapport Delvoye, cet âge d'équilibre est susceptible d'être retardé encore. Hein, c'est très clairement indiqué. Donc, il faut quand même être... Et alors, et également autre chose, la seule chose qu'annonce le gouvernement, c'est qu'il dit au gouvernement, il dit aux organisations syndicales, je reconvoque une conférence. Mais c'est une conférence sous contrainte budgétaire, c'est-à-dire que, bon, de toute façon, ça doit être équilibré, entre guillemets. Il n'y aura pas d'augmentation des cotisations. Donc, en fait, le gouvernement demande aux syndicats d'organiser et de mettre en œuvre les mesures concrètes des décisions qu'il a déjà prises. Donc, cela pour Force ouvrière, c'est... C'est hors de question, et c'est ce qui a déjà été fait sur l'assurance chômage où le gouvernement avait demandé aux organisations syndicales de discuter ma condition d'économiser 3 milliards et a fini par prendre des mesures, de prendre la main là-dessus. Et il nous annonce déjà que de toute façon, s'il n'obtient pas satisfaction, il prendra des ordonnances.
Si je peux me permettre, dans les annonces qui ont été faites aussi du côté éducation nationale, très rapidement, on a entendu notre ministre dire qu'il y aurait revalorisation salariale pour rattraper les pensions. Mmh. Alors, si vraiment il voulait revaloriser, je vais faire gros, hein, mais il faudrait qu'il augmente tout le monde tout de suite de 1500 euros pour que vraiment on ne subisse pas de pertes au moment de la retraite. Ça, c'est une première annonce comme ça, assez grossière, quoi. Et en fait, nous, on rappelle que la question de la revalorisation, elle est à part et elle est déconnectée du dossier retraite. La revalorisation salariale chez les professeurs et dans la fonction publique en général pour les catégories C et qui sont quand même pas très bien payées, c'est important, c'est évident, et c'est surtout déconnecté du dossier réforme des retraites.
Réforme des retraites, bien sûr. La CGT, peut-être, quel est votre point de vue justement sur cette semaine? Moi, c'est ce qui me paraît qui me semble importante.
Alors, cette semaine, effectivement, est importante. Je suis complètement d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il y a aussi un gros problème de communication. La preuve en est, c'est qu'après chaque manifestation, les chiffres avancés sont souvent divisés par 3 ou 4 par rapport aux chiffres réels.
Quand c'est pas par 10. Hein.
Quand c'est pas par 10. La moyenne étant de 8 en général. Donc, effectivement, il y a un énorme problème de communication. De même qu'effectivement, si on revient à ce fameux âge d'équilibre qui, tel qu'il est devenu, hein, puisque ce n'est plus l'âge pivot mais l'âge d'équilibre, qui sera donc suite à une conférence, comme le disait mon collègue de FO, sur la, suite à la conférence de financement proposée par le Premier ministre. Mais en fait, cette commission de financement devra faire très attention. Les mesures destinées à rétablir l'équilibre ne devront entraîner ni baisse des tensions, baisse des pensions pour les retraités, ni hausse du coût de travail pour garantir la compétitivité de l'économie.
Qu'est-ce qu'il reste comme marge de manœuvre?
Voilà, la marge de manœuvre reste vraiment très très faible, et je pense que c'est effectivement juste un effet d'annonce pour redorer le blason de la CFDT, tout simplement, hein, qui avait été un petit peu écorché de la semaine dernière. Voilà. Et ce que je voulais ajouter aussi pour un petit peu par rapport à ce qu'a dit Ouria tout à l'heure, c'est vrai que quelque chose qui n'est pas vraiment dit non plus, c'est qu'effectivement ces mesures vont pénaliser directement les femmes. Elles vont, seront les grandes perdantes de cette réforme, en plus de certaines catégories professionnelles, puisque jusqu'à présent, les femmes pouvaient partir plus tôt avec l'octroi de 4 trimestres par naissance.
Et vous pensez que là, la porte est complètement fermée sur ce type de... bah de, j'allais dire de dans les négociations futures, si malheureusement...
On n'en parle pas.
Pour l'instant, on n'en parle pas.
La seule chose qu'on dit, c'est qu'elles seront gagnantes, en fait.
Alors que c'est
fou. L'inverse.
Mmh. Puisque donc, là, il y a l'Institut de la protection sociale, j'ai quelques chiffres en main, qui ont fait donc des calculs avec le nouveau système. Pour les mères qui auront travaillé 38 ans, la perte serait de l'ordre de 9% pour les mères d'un enfant, de 17% si elles ont eu deux enfants, et de 18,6% si elles ont eu trois enfants. Donc, c'est incroyable, quoi. Et ça, on n'en parle pas.
En un mot, ce projet, c'est une formidable machine de guerre contre le monde du travail pour réduire les salaires. Parce que les retraites, ce sont des salaires, les retraites. Il ne faut pas l'oublier. Les cotisations que l'on paye, que les salariés payent, ce sont des cotisations, ce sont du salaire. Ça sert à payer la sécurité sociale, ça sert à payer les pensions de retraite, etc. C'est du salaire différé. Donc, chaque fois qu'on s'en prend à ces cotisations, on s'en prend au salaire. On attaque directement le pouvoir d'achat des salariés. Donc voilà, pour nous à la CNT, on considère d'ailleurs que d'abord on est en entier sur le plan de l'intersyndical, on est tous sur le même point, à savoir on exige le retrait de ce projet de réforme des retraites. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'organisation soi-disant. Voilà. Donc ça, c'est important à dire, parce que les médias nationaux, ça y est, il y a des failles dans les organisations syndicales. Les organisations syndicales qui, dès le départ, se sont battues pour redire ce projet, sont toujours sur la même ligne. Il n'y a pas eu de modification malgré les annonces concernant l'âge pivot. D'ailleurs, il faut savoir
si ce n'est que la CFDT qui est quand même maintenant, aujourd'hui, dit oui, ok, on va les négocier, on va discuter pendant les trois mois à venir avec la réforme économique.
CFDT, depuis le début, de toute façon, est pour cette réforme
Point. Elle le dit.
Elle l'a dit depuis la
direction confédérale de la CFDT, c'est défense et illustration de la politique gouvernementale. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle défend les intérêts des travailleurs. Pour nous, notre position est tout autre. Alors, voilà, il n'y a pas de... De toute façon, dès le départ, on n'était pas avec la CFDT contre ce projet,
c'est
quoi.
Ça, c'est
parce
ça.
Que la CFDT était pour. Alors, à part sur l'âge pivot, mais...
Ça reste vraiment un projet de société. On le voit, et c'est une réforme. Enfin, c'est une réforme. C'est un projet... complètement économique. Quand de toute façon on commence en disant on dépassera pas les 14% du PIB et on ne bouge pas de là, il y a aucune volonté d'élargir l'assiette, il y a aucune volonté de changer d'entrée. L'entrée elle est économique, mais dans les médias ils arrivent à nous enrober ça en nous disant que ça va être une réforme sociale.
C'est l'individualisation de la retraite. Alors ceux qui auront la chance d'avoir des revenus importants pourront se payer, et c'est le but d'ailleurs de ce projet, des retraites par capitalisation, assurance vie, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décoré le patron français du fonds de pension BlackRock qui gère des milliers de milliards, puisque je crois que c'est 8 000 milliards.
C'est une boîte de Smarties.
Ouais.
Voilà, ça représente une boîte de Smarties.
Et si vous regardez bien, d'ailleurs, au niveau des banques et des assurances, très récemment, depuis, on va dire, 6 mois, ont été mis en place des nouveaux plans, non plus d'épargne logement, mais d'épargne retraite. C'est récent. Hein, c'est bien en vue d'eux. Hein, ils ne l'ont pas fait comme ça.
Donc, les négociations qu'il doit y avoir, la conférence de financement, mais comme le disait mon camarade de Force ouvrière, je veux dire, les dés sont pipés dès le départ, puisque tout est bloqué, tout est verrouillé. Bon, qu'on baisse pas les pensions, c'est quand même le minimum. Et je vois mal une organisation syndicale va demander la baisse des pensions. On va pas toucher aux cotisations. Si on peut pas toucher aux cotisations, c'est comme si on a, lors des négociations annuelles obligatoires, on disait aux syndicats de salariés, de toute façon, il n'est pas question qu'on augmente les salaires. Donc, et vous allez négocier sur cette base-là. C'est impossible, quoi.
Il n'y a pas de marge de manœuvre.
Donc, forcément, ça va être la variable d'ajustement, c'est de reculer l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, à 55 ans, la moitié des salariés en âge de travailler ne peuvent plus travailler déjà, sont au chômage ou sont hors emploi. Et en plus, il y a des millions de jeunes qui attendent du boulot. Alors, soyons. Ouais. La CNT, nous, on se bat, et je suppose que mes camarades des autres organisations syndicales aussi, on se bat pour la réduction massive du temps de travail. Je veux dire, aujourd'hui, les robots remplacent les salariés, donc réduisons le temps de travail pour que nous travaillions tous et partageons égalitairement, et pas équitablement, égalitairement les revenus, les salaires. Les richesses, disons.
Oui, parce que ce dossier, finalement, je pense qu'on a une mode en France qui est de dire aujourd'hui, on va parler de la Sécu, on est en déficit. On va parler de l'assurance chômage, on est en déficit. On va parler des retraites, on est en déficit. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une vision globale de tout ça, finalement? Si on avait moins de chômeurs, on aurait peut-être plus de cotisations et moins de soucis avec la sécurité sociale et les retraites.
Je voudrais dire que ces déficits, ils sont fabriqués, hein, parce que, bon, le problème, c'est que la sécurité sociale, ce n'est pas une entreprise, elle ne vend rien, un hôpital. Ils ne vont rien. On fabrique donc des déficits, c'est-à-dire que les ressources de la sécurité sociale, elles dépendent des cotisations. Alors, il faut savoir que donc, je crois que le chiffre pour l'année dernière, c'était 50 millions. Quand on dit 50 milliards d'exonération de charges sociales pour les entreprises, ça veut dire 50 milliards de ressources en moins.
50 milliards qu'on pique sur nos salaires.
Voilà. Donc, si vous voulez, c'est très facile de dire. Il n'y a pas équilibre. C'est l'État qui a la main là-dessus et qui organise le déséquilibre et ensuite qui fait une opération de manipulation sur les chiffres et essaye de se présenter comme un bon gestionnaire alors que c'est lui-même qui met les hôpitaux ou qui met les caisses de retraite en difficulté.
Et encore une fois, si je peux ajouter, concernant toujours les femmes, puisqu'on dit qu'effectivement il y a un déficit des caisses de retraite, mais si les femmes gagnaient à travail égal, eh bien les caisses de retraite...
C'est la volonté du gouvernement, il l'a déjà dit.
Les caisses de retraite ne seraient plus déficitaires, tout simplement, puisque les femmes cotiseraient autant que les hommes. Voilà.
Est-ce que c'est aussi un moyen à venir? Est-ce que c'est une peur pour vous, représentants syndicaux, que cette réforme entraîne aussi dans l'avenir auprès des jeunes? Puisque s'il faut cotiser des points, il faut travailler. Donc s'il faut travailler, ça veut dire aussi qu'on serait presque prêt à travailler pour peu, pour moins. Est-ce que ça peut être aussi une marge de manœuvre pour les employeurs par la suite en disant de toute façon il faut que vous travailliez donc est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous...
De toute façon la pression sur les salaires existe depuis des décennies, elle existe et de plus elle est accentuée avec l'ouverture des, entre guillemets, des frontières où maintenant les capitaux peuvent se déplacer librement d'un point à l'autre de la planète sans aucune contrainte. Avec la mondialisation générale de l'économie, les travailleurs c'est le marché du travail, c'est-à-dire si vous êtes pas content, ça arrive très souvent dans le pays, l'usine on la délocalise en Pologne, on la délocalise en Asie du Sud-Est, et même maintenant dans les pays dits émergents il y a des délocalisations internes, c'est-à-dire que quand le niveau des salaires augmente dans un pays du sud-est asiatique, par exemple, on transfère les usines vers le pays où le coût de la main-d'œuvre est le plus bas. Donc la pression sur les salaires, elle existe.
Est-ce que cette réforme ne va pas encore pousser cette pression, justement?
Oui, bien sûr, parce que de toute façon, il y a un discours récurrent dans la commission gouvernementale, c'est de nous dire, écoutez, les retraites, c'est 13,4 4% ou 14% du PIB, à mais regarder dans les pays à côté, la moyenne européenne, je crois que c'est 12%. Et donc, il y a cette pression qui s'organise. Et donc, comme, évidemment, on est toujours dans une logique de compétition et de concurrence, eh ben, on s'attend à ce qu'on nous dise, mais vous voyez, donc, on n'est pas compétitif parce que, mais sauf que, bon, la France, c'est quand même, alors, bien que le système des retraites ait déjà été fortement attaqué par la réforme Fillon, etc., on a quand même un taux de retraités pauvres en Europe qui est un des plus bas, je crois le deuxième le plus bas. Raison de plus pour se battre pour la préservation du système actuel et bien sûr de l'améliorer en demandant l'abrogation des précédentes réformes qui les ont attaquées.
Vous n'êtes pas contre une réforme, mais pas celle-ci.
On est pour l'amélioration du système existant.
Voilà, et puis pour la gestion directe des caisses de sécurité sociale par les travailleurs. C'est-à-dire que la sécurité sociale, ça comprend la branche maladie, la retraite, les allocations familiales, c'est du salaire différé ou du salaire socialisé. Notre salaire net, c'est ni le patronat ni l'État qui le gère. Pourquoi le salaire différé, ce serait à l'État et au patronat à le gérer? C'est aux travailleurs
et
à le gérer.
Et aux banques, c'est
aux travailleurs. Et c'est pour ça que nous, on à la CNT, et je pense que les autres organisations syndicales autour de cette table aussi, demandent le retour des élections d'administrateurs élus pour gérer les caisses de sécurité sociale. Et nous, on demande, on veut pas de paritarisme même, on voudrait que ce soit que les salariés qui gèrent les caisses de sécurité sociale, comme c'était le cas au début. Pour que
c'est leur argent.
Non, oui, c'est notre argent. Les cotisations, c'est pas des charges patronales, c'est notre argent, c'est du salaire différé. Donc notre argent, on veut le gérer nous-mêmes et collectivement dans le cadre des caisses de sécurité sociale, des caisses de retraite ou des caisses d'allocation familiale.
On arrive au bout de cette table ronde. Merci à vous. Alors on va rappeler qu'il y a des aujourd'hui il y a des
manifestations à 14h aujourd'hui, 14 rendez-vous au rond-point Intermarché à l'Alevat d'Ardèche. Donc pour une manifestation et jeudi à partir de 14h rassemblement au rond-point de Ponson.
Voilà, qui est une journée un nouvel appel national. Voilà.
Donc 14h à l'Alevat aujourd'hui et 14h à Ponson. Aubena, jeudi.
Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant de quitter ce studio, tant que vous êtes là
J'allais le dire.
Et puis, contrairement aussi à ce qu'on affirme, il y a des secteurs en grève aussi. Il y a des camarades de l'enseignement qui sont en grève. Il y a des gens qui font grève aussi aujourd'hui. Je pourrais citer plein d'exemples dans le privé qui vont venir, qui s'arrêtent pour aller manifester, etc.
Sur notre bassin d'emploi, à Aubena, il faut quand même faire remonter que ce sont surtout les enseignants qui sont en grève actuellement massivement et donc il faut les soutenir.
D'ailleurs, il y a un appel à opération pour vendredi, hein, école, collège et lycée mort, alors qui est demandé, je ne sais pas si quelqu'un peut en parler, ce n'est pas directement lié au syndicat, c'est plutôt les parents d'élèves qui veulent apporter leur soutien de cette manière-là, c'est
exactement,
ça.
Exactement, c'est ça. C'est plutôt un appel qui part des parents d'élèves de ce que j'ai entendu, c'est surtout les parents d'élèves qui ne peuvent pas tout à fait se mettre en grève et qui font partie du secteur privé pour qui c'est compliqué parfois de faire un appel de suivre les appels à la grève plutôt, et qui du coup, par soutien et solidarité, appellent les autres parents d'élèves à ne pas mettre les élèves en classe dans les collèges, lycées et écoles du bassin.
Voilà, pour vendredi, c'est en signe de contestation et en soutien à la mobilisation contre cette réforme des retraites par points. Ne mettez pas vos enfants à l'école, au collège ou au lycée.
Un dernier mot, j'invite tous les salariés qui bossent dans des petites boîtes et qui ont envie de contacter les organisations syndicales de ne pas hésiter. Ils viennent à la maison des syndicats. À Aubena, les organisations syndicales autour de cette table, sauf peut-être la FSU qui n'a pas de locaux, mais on peut contacter la FSU aussi, j'imagine, puisque ça concerne surtout les enseignants, ils ont des facilités pour la contacter. Ne pas hésiter à venir à la maison des syndicats à Aubena, 18 avenue de Sierre, pour rencontrer les organisations syndicales, pour discuter avec elles, etc. Et puis éventuellement pour que les syndicats puissent les aider à s'organiser dans leurs entreprises. Maison des syndicales est ouverte à tous et bon, voilà.
La jeunesse n'est pas très présente. Est-ce que c'est lié au Est-ce qu'elle est présente ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas.
Elle est de plus en plus présente. On l'a pu le constater lors de la manifestation samedi soir, la manifestation au Flambeau qui a eu lieu à Aubenas, où on a eu effectivement un rajeunissement, je dirais, de la population qui a manifesté, c'est-à-dire 800 personnes et non pas une centaine de personnes comme l'ont dit les médias. Nous étions bien 800, les photos le prouvent, et c'était vraiment beaucoup plus de jeunes.
Et localement sur l'Ardèche, il y a quand même quelques lycéens qui se groupent. Il y a notamment des lycéens, enfin un collectif de lycéens du lycée des Catalans à Montélimar qui a rédigé une jolie lettre pour pouvoir motiver leurs camarades. Donc
parce qu'ils sont aussi quand même les premiers concernés par...
Oui, il faut savoir aussi que dans les universités, de nombreuses assemblées générales se tiennent et les étudiants aussi rentrent dans le mouvement et la mobilisation.
On était dans une période de partiel, je crois. Là, au retour des vacances scolaires, je crois que c'était une période de partiel, comme c'est une période importante aussi pour ceux qui passent le bac actuellement, puisqu'ils sont en train de ils sont sur le contrôle continu. Voilà. C'est une chose qui était peut-être aussi instaurée pour les faire taire, à savoir. Merci à tous les quatre Joseph Allard, donc Josette Allard, décidément, je ne sais pas pourquoi je vous Josette Allard, Union Locale, Aubenas, CGT, Daniel Tessier pour la CNT, Confédération Nationale des Travailleurs, la Force Ouvrière, FO, Jean-Louis Couden, FO enseignant, et Ouria Delbosque pour la FSU, SNU, IPP, je ne sais pas si on peut ajouter, voilà, tout ça. Merci à tous les quatre, on rappelle
Merci
manifestation
beaucoup.
Aujourd'hui à 14h, si vous nous suivez en direct à l'Alvade, et ce sera jeudi au rond-point de Ponson Moulon, même horaire, 14h.